soyez les bienvenus sur France Inter. Nous sommes le jeudi 25 juin. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'État maintient un important dispositif d'aide aux entreprises et aux salariés. Jusqu'à 2 ans de soutien financier pour les mesures de chômage partiel. Le détail, Agnès, après les autres titres.
Quand Didier Raoult charge ses confrères du Conseil scientifique, la colère qui monte en Italie, l'un des seuls pays d'Europe où l'école ne rouvrira pas avant septembre, la vie sans haut débit en période de télétravail et puis le miracle de la Sainte-Baume pour terminer ce journal.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Tollé chez les présidents de région, Emmanuel Macron envisage de reporter après la présidentielle les régionales prévues en mars prochain. Le président reçoit à déjeuner les présidents de groupe à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour en parler. Alors est-ce une bonne idée? Est-elle acceptable? On pose la question au patron de la droite, Christian Jacob, président des LR, sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouvera, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec donc le sociologue Edgar Morin, qui publie « Changeons de voix » aux éditions de Noël. C'est un livre de méditation et de leçons sur la crise du Covid-19. Vous pourrez dialoguer avec lui. 01 45 24 7000.
France Inter. Les prévisions sont sombres. 900 000 emplois pourraient disparaître cette année selon l'UNEDIC, avec un risque politique, celui de tensions sociales accrues. Le chef de l'État a donc dévoilé hier 2 dispositifs censés permettre aux entreprises et à leurs salariés de traverser la crise. L'un n'entrera en vigueur qu'au 1er octobre. Il sera moins généreux avec un reste à charge pour l'entreprise à hauteur de 40% contre 15% aujourd'hui. L'autre dispositif de longue durée va être mis en place dans quelques jours à partir du 1er juillet, il reprend les grandes lignes du dispositif actuel de chômage partiel. Grégoire Lecalot.
Le nouveau système qui va entrer en vigueur à partir du 1er juillet maintient les conditions du dispositif actuel. Les salariés seront indemnisés à hauteur de 70% de leur salaire brut et au minimum à 84% de leur salaire net. Le reste à charge pour les entreprises qui veulent bien compenser sera toujours remboursé à 85% par l'État et l'UNEDIC. Ce qui changera, c'est que le système devra être négocié au sein de chaque entreprise ou de chaque branche et signé par les syndicats majoritaires ou bien validé par un référendum interne avec une date butoir le 1er octobre. Ce système est pour l'instant valable 2 ans. Le gouvernement espère que les entreprises utiliseront cet outil au lieu de licencier. Mais pour plusieurs syndicats, c'est là le problème. Le nouveau dispositif ne contient aucune clause contraignante en termes de maintien de l'emploi. Ce seront les accords d'entreprise qui vont définir les objectifs en la matière. Or, sous la pression, les négociations risquent d'être difficiles. Pour éviter les mauvais accords, les services régionaux du ministère du Travail vont tous les examiner. Mais les critères de validation restent flous pour le moment.
Alors, effectivement, si les partenaires sociaux se disent satisfaits de ces dispositifs, Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, pointe du doigt l'absence de clauses contraignantes pour empêcher les licenciements.
Il y a quand même un petit hic, un peu difficile, c'est qu'il n'y a pas de clause qui garantisse que la contrepartie soit non suppression d'emploi, non licenciement dans le cours de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée. Tout est renvoyé à l'accord d'entreprise. Or, je le rappelle, dans les entreprises, lorsqu'il y a un chantage d'une certaine manière, objectif ou non, sur la question de l'emploi, du maintien de l'emploi, eh bien vous êtes dos au mur et selon les circonstances, c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire porter le rapport de force dans la négociation, y compris au niveau de l'entreprise, en faveur d'un maintien assuré de l'emploi.
Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière. Et puis hier soir, les députés ont adopté en commission une mesure qui permettra aux entreprises de défalquer de leur impôt une part plus importante de leur déficit. Voter aussi le possible versement jusqu'en décembre d'une prime exceptionnelle pour les salariés. Mais certains métiers semblent avoir été oubliés. Les 15 000 interprètes et traducteurs français ont bénéficié jusqu'à fin mai du fonds de solidarité à hauteur de 1 500 euros par mois. Mais désormais, plus aucune aide ne leur est accordée, alors que leur activité reste très réduite. Wafia Kenich.
Rachel est interprète de conférences depuis 20 ans. Cette maman divorcée a 2 garçons de 12 et 16 ans. Depuis 4 mois, elle n'a plus de salaire.
Tout s'est arrêté. Ma dernière journée de travail remonte au 3 mars. J'avais quelques économies parce que j'ai la chance de travailler depuis 20 ans et que on a un matelas pour les coups durs. Mais c'est clair que je ne vis pas normalement et que si on n'est pas aidé, je vais devoir à 50 ans aller demander l'aide de ma mère.
Une situation qui n'est pas isolée. Une majorité d'interprètes et de traducteurs sont des indépendants qui, pour la plupart, n'ont quasiment plus de travail depuis le début de l'épidémie. Ils ont certes bénéficié d'un fonds de solidarité de 1 500 euros jusqu'en mai, puis plus rien, Xavier Combes, leur porte-parole.
Le gouvernement est intervenu pour apporter un soutien au métier de l'événementiel. Donc nous, ce que nous demandons, c'est d'être simplement inclus dans cette liste des métiers faisant l'objet d'aides dans le secteur de l'événementiel.
Une aide dont ils auraient besoin jusqu'à la fin 2020, le temps d'une reprise de leur activité. Du côté de Bercy, on juge cette demande légitime. Interprètes et traducteurs devraient être fixés sur leur sort d'ici le début de la semaine prochaine, lors du débat de la loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale.
Eux ont obtenu un premier chiffre un mois après le début du Ségur de la santé. Olivier Véran a annoncé hier soir une enveloppe de 6 milliards d'euros pour les hausses de salaire des soignants à partir du 1er juillet. Une enveloppe à partager entre hôpitaux et EHPAD publics et privés. Le détail dans le journal de 8 heures. Il avait pour l'occasion laissé tomber sa blouse blanche pour un costume sombre et une chemise à carreaux, mais n'a rien perdu de son franc-parler. Le professeur Didier Raoult a été auditionné durant plus de 3 heures hier par la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur le coronavirus. Toujours partisan de l'hydroxychloroquine, il a réservé ses plus vives critiques à certains de ses confrères, du conseil scientifique notamment, qu'il accuse clairement de conflit d'intérêts. Véronique Julia.
Dans son institut à Marseille, Didier Raoult a beaucoup testé. Il a donc beau jeu aujourd'hui de critiquer l'organisation, je cite, « archaïque du dépistage en France » qui a d'après lui fait perdre beaucoup de temps. Et ce n'est pas la seule de ses critiques. Face aux députés à qui il doit répondre, Didier Raoult devient accusateur. Sa cible préférée, le conseil scientifique qui a éclairé les choix de l'exécutif. La décision de confiner ne reposait d'après lui sur rien de sérieux et la qualité des membres de ce conseil serait discutable. Quant à ses détracteurs sur l'hydroxychloroquine, Didier Raoult accuse clairement certains d'entre eux, au sein même du conseil scientifique et de l'essai Discovery, d'avoir été influencés parce que liés financièrement au laboratoire Gilead qui fabrique le remdesivir, une molécule concurrente pour traiter le Covid.
C'est pas compliqué de regarder qui a des conflits d'intérêts, vous regardez le listing chez les infectiologues, on a même publié un article là-dessus, et il y a une coïncidence. C'est la même incidence d'être contre la chloroquine et de recevoir de l'argent de Gilead. Je vous recommande de faire une véritable enquête sur Gilead et le remdesivir.
Sur l'hydroxychloroquine, Didier Raoult maintient que les décisions prises ne reposaient sur rien de fiable. Le temps fera son tri, dit-il, et qu'on ne vienne pas lui dire que ses études à lui n'étaient pas scientifiquement solides, car pas randomisées, c'est-à-dire sans groupe contrôle. En vieux sage, Didier Raoult défend sa méthodologie et affirme qu'en matière de maladies infectieuses, moins de 5% des traitements utilisés seraient basés sur des essais randomisés.
Il est 7h07. Monsanto, Agnès, signe un chèque de près de 9 milliards d'euros pour solder plus de 100 000 litiges aux États-Unis.
Un montant impressionnant pour mettre un terme aux procédures donc de 100 000 Américains ayant souffert d'un cancer après avoir été exposés au Roundup, un herbicide à base de glyphosate. Cet accord va permettre de régler les trois quarts des procédures en cours aux États-Unis. Nous y viendrons dans le journal de 7h30. Plus de 80% des écoliers français et les trois quarts des collégiens ont retrouvé le chemin de l'école, s'est félicité hier Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale estime que la France est parmi les pays qui ont le mieux réussi leur déconfinement scolaire. Ce qui n'est pas le cas de l'Italie, pas de reprise avant septembre. Et le gouvernement qui doit présenter aujourd'hui les modalités de rentrée fait l'objet de multiples critiques. Correspondance à Rome, signée Bruce de Galzin.
L'école est la grande oubliée de cette crise. La ministre de l'Éducation est l'une des ministres les plus critiquées. Selon la principale association de parents d'élèves, elle se dégage de toute responsabilité en faisant tout retomber sur les directeurs d'école. Le gouvernement ne fait en effet que des recommandations. Diviser les classes en plusieurs groupes, réduire les cours d'une heure à 40 minutes, ouvrir les écoles le samedi, porter un masque au-delà de 6 ans, ou encore faire cours dans les gymnases ou les musées. Les premiers concernés, les directeurs d'école apprécie mal cette fausse autonomie car impossible d'accueillir tous les élèves sans ressources et personnel supplémentaire, estime Antonello Gianelli, le président de l'association des directeurs d'école, qui regrette aussi le flou entretenu sur les distances à respecter.
On ne peut pas seulement dire aux écoles « trouver un peu d'espace, inventer des choses à faire dans les musées ». On y va déjà dans les musées, là c'est toujours fait. Mais si les salles sont trop petites par rapport au nombre d'élèves, c'est un peu compliqué de les agrandir d'un coup de baguette magique.
Nombre d'écoles n'ont encore engagé aucun travaux. Si les recommandations sanitaires en restent là, 40% d'entre elles ne pourront pas accueillir leurs élèves à la rentrée. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Et en France, les députés ont adopté hier soir le texte créant la fonction de directeur d'école, un texte dont l'efficacité a été mise en doute par l'opposition. Cette période de confinement et son lot de télétravail et autres apéros Zoom a mis en évidence notre dépendance au haut débit, d'où l'amertume pour les millions de Français installés en zone blanche. D'autant, Sébastien Sabiron, que les travaux d'installation du très haut débit ont pris du retard.
Le très haut débit, un concept encore assez vague pour Aline. Elle loue des cabanes dans les arbres en Ardèche et aimerait déjà pouvoir profiter du bas débit.
Pendant le confinement, ça a été compliqué parce que pendant quelques semaines, on n'a pas eu internet et puis le téléphone. On a dû embaucher une personne pour pouvoir nous tenir l'accueil, pour que moi je puisse partir en ville, travailler sur internet depuis une petite maison.
En 2019, la France est pourtant devenue le pays le plus fibré d'Europe. Un déploiement rapide, percuté cette année par la crise sanitaire qui a retardé les chantiers. Mais le coronavirus n'est pas le seul obstacle. Hervé Raftar préside Infranum, la fédération des professionnels du très haut débit.
On estime qu'aujourd'hui, suivant les secteurs, il y a des centaines de milliers de Français et d'entreprises qui aujourd'hui ne peuvent pas se raccorder, non pas parce que le réseau n'est pas construit, mais parce que leur maison, leur entreprise, ne se trouve pas, n'est pas géolocalisée dans les bases de données des opérateurs.
Pour relancer la machine, les professionnels prévoient d'embaucher, mais ces nouveaux métiers restent très peu connus, déplore Hervé Raftar.
On a du mal à comprendre que sur certains chantiers, on soit obligé de faire appel à des travailleurs détachés, alors que nous avons des centres de formation, des entreprises qui sont prêts à faire l'effort et à embaucher partout en France.
À la fin de l'année, 22 millions de foyers français seront raccordés à la fibre optique. Objectif, 41 millions de foyers fibrés d'ici 2025.
Forte chaleur et absence de vent, Paris met en place aujourd'hui la circulation différenciée. Seuls les véhicules portant une vignette critère 0, 1 et 2 peuvent circuler pour lutter contre la pollution à l'ozone. Et puis attention, si vous voulez vous rendre à Roissy avec le RER B, la circulation est très perturbée aujourd'hui après le déraillement hier soir d'une rame sans voyageurs entre les stations La Place et d'Enfer-Rochereau.
Et on termine à 7h12 avec la belle histoire du jour.
Celle d'un randonneur de 70 ans retrouvé sain et sauf après 5 jours et 5 nuits passés dans le massif de la Sainte-Baume dans le Var. Parti seul et sans portable, André Tréguet, un retraité randonneur originaire de Sifour, s'est perdu. La suite, c'est son fils Camille qui la raconte à Sophie Glotin de France Bleu Provence.
Il avait juste de quoi tenir une journée de randonnée. Le jeudi, il avait un sandwich, deux pommes, trois gâteaux et deux bouteilles de 50 centilitres d'eau. Dès le lendemain, il avait plus rien. Donc il a dû boire son urine, bien sûr, pendant 4 jours. Et il était sévèrement déshydraté. Il était en hypothermie aussi parce que la nuit, il dormait sur la falaise et avec le vent, il faisait très très froid. Il avait seulement un coup de vent et une polaire et il était en short. Et par bonheur, on va dire entre guillemets, il avait oublié qu'il avait pas mangé une pomme le dimanche. Donc au bout de 3 jours sans manger, il a retrouvé cette pomme. Ça l'a peut-être aidé à survivre et à lui donner un petit peu d'énergie pour lundi réussir à s'extirper, quoi. Donc c'est un miracle, quoi. C'est vraiment... On n'y croyait pas quand on a su la nouvelle. On a dit, mais c'est pas possible, c'est surhumain, quoi. Mais on est trop heureux. On est trop heureux.
Trop heureux, évidemment, on le comprend. Et le randonneur a effectivement réussi à rejoindre de lui-même l'hostellerie de la Sainte-Baume. Il a été hospitalisé à Aubagne et il va bien.
Merci Agnès Soubiran.